Bonjour à ceux à qui nous avons encore été dit. Donc, bienvenue pour cette dernière journée du Nouveau Théâtre du Monde. Enfin, dernière journée du festival du Nouveau Théâtre du Monde, puisque la vie du Nouveau Théâtre du Monde continue. Nous sommes. Le cœur tout pas le temps de finir. On ne pouvait pas espérer mieux que de finir ce festival avec cet atelier de théâtre législatif animé par M. Sauvois. Donc c'est le pur bonheur, et donc ça permet aussi de rappeler ce que le plus beau théâtre du monde, donc pourquoi c'est le plus beau, c'est simplement parce qu'il rend la frontière entre l'acteur et le spectateur perméable, et il ne supporte pas la passivité du spectateur, donc du coup il vous laisse la place, et du coup on a bien profité pendant 15 jours, on s'est fait plein de place, et on a partagé de plein de belles choses. Alors pour ceux qui ont raté ça, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Et puis sinon, vous savez que pendant l'année aussi, le plus beau théâtre du monde continue, puisque il y aura un atelier de création d'un théâtre forum pendant cette année, en itinérance entre les quatre communes. Donc, l'aventure va continuer, c'est bien. Et donc vous êtes les bienvenus, hein, l'atelier est vraiment ouvert à tous. Et donc vous allez vous faire une idée de ceux qui ne connaissent pas encore de ce qui est possible dans ce cadre du cadre de l'opinion. Bon après-midi à vous, et je passe à la...
J'essaie de trouver une phrase. J'essaie de trouver une façon d'être en rapport avec vous un peu mieux que celle-là. Je me sens plus abandonné ici au milieu. Mais après, on aura besoin de cet espace pour faire le théâtre forum. Donc, ce que je vous propose, c'est approchez-vous, mémorisez là où vous êtes, et après, vous revenez sur le même plan.
Allez, on va se
faire. C'est mieux, quoi. C'est mieux, quoi. Ça soit par terre, c'est mieux. Il n'est pas nécessaire de s'asseoir par terre, il ne fait pas partie de la l'opprimé. Il le fait par terre.
C'est agréable. Il y a meilleur qu'une chaise. Tellement mieux qu'une chaise. En plus, c'est frais.
Ok, donc je vais essayer cette réunion d'aujourd'hui. Va avoir trois parties. La première partie, je vais vous expliquer, je vais raconter comment on a développé une forme de théâtre qui aujourd'hui, ça a commencé il y a 35 ans exactement au Brésil, l'année de 1970, non? Et aujourd'hui, c'est une forme de théâtre qui est pratiquée un peu partout dans le monde, dans les 100 continents, et spécialement dans 50 pays qui sont dans l'Internet. Il y a une adresse, un site, si vous voulez consulter le site, pour savoir qui fait du théâtre opprimé au Sri Lanka, qui fait en Inde, qui fait au Brésil, à Paris, à New York, Londres, vous pouvez voir. Donc c'est une forme de théâtre bien répandue. Pourquoi cet éclat? Pourquoi cet développement en pays nuit d'une forme de théâtre qui est utilisée un peu partout dans le monde? Pourquoi ça s'est développé? Je vais vous raconter ça. Après, on aura une séance, c'est petite, c'est une pièce petite, une séance petite de théâtre forum, et on va essayer de faire quelque chose qui va vous donner l'idée du théâtre législatif. Non? Donc, ce sont les trois parties. J'espère que je sois... c'est vraiment difficile pour moi d'être synthétique. J'ai la tendance à parler, mais je vais essayer de ne pas abuser de votre patience et être plus compact dans mon explication. D'abord, quand je regarde les paysages, c'est un paysage très beau. Non? Au Brésil, on a aussi des paysages très beaux, mais c'est complètement différent, les paysages d'ici, les paysages de Rio, par exemple, les paysages du nord-est du Brésil. Non? Donc, les mêmes différences qui existent dans la géographie, dans le climat, existent aussi dans la politique, même s'il y a des ressemblances. Ici, il y a des arbres, là-bas, nous avons des arbres. Ici, vous vous avez votre zone politique, nous avons les nôtres. Donc, des fois, elles se ressemblent, des fois, elles sont différentes. Donc, des fois, les événements se ressemblent, des fois, elles sont complètement différentes. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Brésil en 1970, 70 et même avant, on était un groupe de théâtre, comme n'importe quel autre groupe de théâtre, qui faisait des spectacles pour les spectateurs. Donc il y avait un théâtre petit, il y avait une aréna qu'on on appelait l'aréna de 4 mètres pour 5 mètres, c'était pas plus grand que ça ici, et là dans ces lieux on faisait du théâtre, mais nous étions tous des gens avec une bonne intention, une morale bien claire de qu'est-ce qu'il faut le faire, qu'est-ce que c'est, l'utilité que le théâtre peut avoir. On comprenait bien que quand on fait de la musique, on utilise les sons. Quand on fait de la peinture, on utilise les couleurs, les lignes et tout. Et quand on fait du théâtre, on montre la vie sociale. Et si on montre la vie sociale, la vie, c'est un mouvement. Donc, il part d'une partie pour une autre partie. Donc, il y a un mouvement. Donc, quand on présente un spectacle de théâtre, ces mouvements, par l'empathie qu'il peut créer avec le spectateur, il va induire le spectateur à penser d'une certaine façon, à sentir d'une certaine façon. Non? Il y a toujours ces liens. L'empathie, c'est la chose plus dangereuse qui existe dans le phénomène théâtral. Et en même temps, des fois plus utile, amène le spectateur à un état de passivité pendant lequel, dans sa tête, passe toute la pensée du personnage, passe toutes les émotions du personnage d'une façon vicaire. C'est-à-dire, ce n'est pas que le spectateur sent exactement la même chose, mais dans le même ordre des choses. Donc on pense la pensée du personnage, c'est ça empathie. Empathie, c'est se mettre dans un état un peu passif, non? Et en recevant tout ce qui vient de la scène. Les personnages qui sont empathiques, les personnages qui ne sont pas, mais les personnages qui sont empathiques transmettent aux spectateurs leurs propres émotions, leurs propres idées, leurs propres idéologies. Donc l'empathie qui réduit la majorité à un état de passivité et dynamise une ère de jeu, c'est extrêmement dangereux à cause de ça, parce que nous sommes dans une sorte d'hypnose. Et dans l'hypnose, on reçoit des choses qu'on ne recevrait pas dans un autre état, non? Donc ce danger toujours m'a paru un peu excessif pour un phénomène théâtral. Pourquoi la majorité va être réduite à la passivité, à la condition du spectateur, à la condition de qui sait moins qu'un être humain, parce que l'être humain, c'est un acteur aussi, tout le temps on est en train d'agir. Mais pendant la séance théâtrale, non, on est en train de recevoir. Donc ça me gênait toujours. Mais de toute façon, on disait, quand même, nous sommes les artistes. Et comme artistes, ça que nous pensions à cette époque-là, nous sommes les artistes. Et comme les artistes que nous sommes, nous avons une connaissance que peut-être le public ne l'a pas. Donc on a commencé à faire des spectacles qui amenaient les bonnes paroles. C'est-à-dire, c'était une époque, je parle même des années 50, des années 60, une époque où on faisait un théâtre qu'on appelait le théâtre politique et qui avait ça. Pour moi, tout le théâtre est politique, tout l'art est politique, toutes les activités humaines sont politiques parce qu'elles se relationnent. Mais à cette époque-là, il avait ce label, non? Théâtre politique. Théâtre politique, c'était quand on présentait une pièce qui avait une chose importante qui était le message. Et les gens disaient, non, il faut avoir un message. Je me souviens que des fois, on allait voir une pièce et tout le monde détestait la pièce. On disait, non, mais la pièce est très mauvaise, pas quoi. Mais quelqu'un venait et disait, oui, mais le message, c'est un bon message. Donc on disait, mais qu'est-ce que le message? Oh, le message, c'est ceci. Ah bon, donc la pièce est bonne. Le spectacle, c'était horrible. Tout le monde détestait le spectacle, mais en sachant quel était le message, ça conférait, ça donnait à la pièce un label de qualité. Et c'est bon parce que le message est bon. Non? Et on faisait comme ça. On était de jeunes, très jeunes gens. Moi, j'étais le plus âgé, 25 ans, 27 ans, 28 ans. Les autres étaient beaucoup plus jeunes que moi. Et on faisait des spectacles pour les opprimés en général. Non? Donc on pensait à qui on va s'adresser. On va s'adresser aux Noirs brésiliens, parce que les Noirs sont opprimés, même aujourd'hui. On dit qu'il n'y a pas de préjugés raciaux au Brésil. C'est pas vrai. Il y a des racismes au Brésil. Bien sûr qu'il y a. Donc on écrivait des pièces contre les racismes. Des pièces qui essayaient d'apprendre aux ainsi appelés Noirs qu'est-ce qu'ils devaient faire, enseigner à eux qu'est-ce qu'ils devaient faire pour se libérer du racisme des Blancs. Non? Mais nous étions des Blancs, nous n'étions pas des Noirs. Donc, on pensait aussi qui sont les opprimés au Brésil. Ce sont les femmes qui sont, permettez que je vous dise, à vous les femmes, qui sont opprimées partout dans le monde. Je voyage un peu partout, je n'ai jamais vu un pays où les femmes ne sont pas opprimées. Non? La seule fois qu'on m'a dit qu'elles n'étaient pas opprimées, c'était en Suède, une femme a dit qu'elle n'était pas opprimée. J'ai dit, ah, formidable, c'est la première fois que je trouve un pays où les femmes ne sont pas opprimées. J'étais vraiment ravi d'avoir rencontré ça. Donc je leur ai dit, si les femmes ne sont pas opprimées, c'est une histoire que j'aime bien, si les femmes ne sont pas opprimées, ça veut dire que pour les mêmes travaux qu'elles font, elles reçoivent la même quantité d'argent que les hommes, n'est-ce pas? Parce que dans les pays où elles sont opprimées, comme en France d'ailleurs, les femmes reçoivent moins que les hommes. Donc j'ai dit, les femmes dans les pays opprimés comme le Brésil reçoivent moins d'argent que les hommes. Mais ici, si vous n'êtes pas opprimé, vous recevez exactement la même chose, n'est-ce pas? J'ai fait ce geste-là. Donc la femme a répété le même geste et moi, elle dit, non, c'est un peu différent. Au Brésil, par exemple, les femmes reçoivent moins d'argent que les hommes pour le même travail. Ici, non. Ici, ce sont les hommes qui reçoivent un peu plus. Quand elle a fait ça, elle a regardé sa propre main. Elle s'est dit, voilà, ça c'est la taille de votre oppression, c'est votre tête. Vous avez l'oppression dans la tête et vous ne voyez pas l'oppression qui existe parce que cela vous semble naturel. Non? Donc on écrivait aussi des pièces féministes pour dire aux femmes, libérez-vous, luttez contre... Contre qui? Contre nous, les hommes, qui écrivions les pièces. Quand il y avait une femme qui venait, une comédienne qui venait, dire ah non, mais je voudrais écrire moi-même une pièce féministe, on disait, non, écoute, c'est de la bouche. Fais pas ça, mais tu n'es pas prête encore. Il faut apprendre beaucoup de choses. Les hommes pouvaient le faire à n'importe quel moment. Les femmes devaient apprendre un peu, non? On a pas du temps pour apprendre à écrire. On apprenait en faisant. Elle devait apprendre d'abord. Donc, nous étions des hommes. Et aussi, comme les paysans étaient, ils sont encore, parce que au Brésil, c'est un pays, je pense qu'il y a plus de terres dans la propriété de moins de monde. Ils sont des terres qui ne sont pas utilisées. Il y a des millions de familles qui veulent la terre pour planter, pour faire produire la terre, et qui ne peuvent pas parce qu'elles appartiennent à des gens qui, dans la majeure part des cas, elles ont, sont des terres falsifiées. Les documents sont falsifiés, sont pas vrais. Mais c'est comme ça. Donc, on écrivait des pièces en faveur des paysans. Et nous étions des gens de la ville. Donc, ça nous paraissait bien. Parce qu'à cette époque-là, c'était comme ça. L'artiste était quelqu'un de supérieur. Parce qu'il était un artiste. Il pourrait être un bon artiste, un mauvais artiste. Mais le fait qu'il était un artiste faisait croire aux gens qu'il était supérieur aux autres citoyens qui n'étaient pas des artistes. Donc, ça marchait bien comme ça. Parce que tout le monde venait nous dire, ah, ce que vous faites, c'est très bien. Tout cela. Et un jour, on a fait une pièce pour la libération des paysans. Non? Donc, cette pièce-là, elle était très bonne et tout, mais elle était la pièce avec message. Et à la fin, nous avions une chanson très belle, c'était Carlos Lyra, c'était un des compositeurs qui a inventé la bossa nova, donc il était une musique de bonne qualité, et qui terminait avec les spectateurs, les groupes, nous tous, les acteurs, qui avançaient vers le public avec la main comme ça, en disant, il faut verser notre sang pour libérer notre terre. Mais pas comme j'ai dit maintenant, mais c'était en chantant une belle musique. Et dans nos mains, nous avions des rifles, des fusils de plaisir. circulaire, parce que c'était fusil que nous-mêmes avions fabriqué pour le spectacle, exprès pour le spectacle. Donc il avait des fusils rouges, jaunes, verts, de toutes les couleurs, chacun avec son fusil et avec sa main comme ça. Et on chantait avec toute la force et toute notre sincérité. On disait, il faut verser notre sang pour libérer notre terre. Et tout le monde, on jouait ça pour des vrais paysans. Et les paysans, ils étaient émus avec notre vigueur, notre volonté de les aider, et avec la vérité de ce qu'on disait. Et je me souviens qu'un jour, on était en train de... On terminait le spectacle en chantant ça. Et à la fin, les paysans sont venus pour parler avec nous. Il y avait un parmi eux, qui était un homme très fort, très grand. Je me souviens toujours de son visage. Il était ému, vraiment ému, presque pleurait. Il a dit, écoute, mais c'est formidable, parce que vous venez de São Paulo, que c'était une grande ville, il y a plus de 20 millions d'habitants à São Paulo. Vous venez d'une grande ville, ici, dans ce paysage-là, et vous nous dites exactement ce que nous pensons. Il y a une totale identité entre toute votre pièce et notre pensée. C'est la même chose. Vous pensez comme nous. Il faut verser notre sang pour libérer notre terre. Il faut lutter, c'est bien. Donc on était très contents parce qu'on disait notre message a bien passé pour eux. Ils ont bien reçu notre message. Mais le monsieur a continué. Il a dit, dès que comme vous pensez exactement comme nous, on va faire comme ça. On va manger maintenant parce que c'était avant midi. On va manger maintenant. Et après le repas, vous prenez votre rifle, votre fusil avec vous. Et venez parce qu'il faut combattre avec, contre quelqu'un qui a envahi notre terre. Donc on était un peu confus avec cette déclaration, cette proposition. On a dit, écoutez, monsieur, il faut vous dire une chose importante, c'est que, bon, nous disons ça, nous pensons comme vous et tout cela, mais les fusils que nous avons, ils sont fusils de scénographie, ils ne tirent pas, on ne peut pas aller avec vous parce que nos fusils ne tirent pas. Donc il n'a pas compris, il a dit, mais comment vous faites des fusils qui ne tirent pas, les fusils des artistes ne tirent pas, ils sont très coloriés, très beaux, mais ils ne tirent pas. Un fusil c'est pour tirer, sinon en fait une autre chose. Donc on a expliqué, non, c'est pas ça, c'est que les fusils c'est très important qu'ils soient là, parce que ça donne crédibilité à notre chanson. Quand on est en train, avec les mains comme ça, et les fusils dans la main, ils ont dit, il faut verser notre sang pour libérer notre terre, comme les fusils est là, ça donne crédibilité à nos verses. Donc c'est bien qu'on est là, parce qu'il a une fonction esthétique. Il ne tire pas, mais esthétiquement, il est très important. Donc le monsieur a dit, oh, ok, maintenant je comprends, les fusils des artistes ne tirent pas. Donc ne tue personne, ni rien. Mais il a cette force esthétique, c'est très bien. Mais ne vous inquiétez pas, vous venez avec nous parce que nous avons des fusils pour tout le monde. Donc, on a répété, on a dit, écoutez, pardonnez-nous, mais il y a encore un deuxième malentendu. Nous sommes vrais, ce que nous disons, c'est la vérité, c'est vrai. Mais nous sommes vraiment des artistes. Nous ne sommes pas vraiment des paysans. Vous comprenez la différence? Nous sommes les vrais artistes, vous êtes les vrais paysans. Donc, ah, maintenant je comprends. Quand vous, les vrais artistes, vous dites qu'il faut verser notre sang pour libérer notre terre, c'est vous parlez de notre sang paysan et pas de votre sang d'artiste. Donc ça m'a fait beaucoup de mal parce que j'ai pensé, bon, ça c'est horrible, qu'on est en train d'inciter les gens, de stimuler les gens à faire des choses que nous ne pouvons pas faire, que nous ne savons pas faire. Et nous ne savons si c'est vraiment vrai, c'est comme ça qu'il faut le faire ou pas. Ce sont eux qui savent, pas nous. Donc on disait, cette empathie, elle est périlleuse, elle est dangereuse. Parce que nous sommes là, dans un espace privilégié, on dit des choses qui réduisent le spectateur à la passivité, et on essaye de les mettre dans leur tête des idées qui sont à nous, et pas à eux. Peut-être qu'ils ont la même idée, mais c'est eux qui savent comment le faire, quand le faire, et s'ils doivent le faire ou pas. Ce n'est pas nous. Nous sommes les artistes, nous comprenons bien comment faire de l'art, mais pas... pas comment leur lutte sociale va se passer. Donc si on dit aux femmes, faites ceci, faites cela, il y en a d'hommes, évident qu'on ne va pas tout dire. Même avec toute la bonne volonté du monde, avec l'honnêteté du monde, on n'est pas prêt à dire aux femmes, on n'est pas, on ne sera jamais prêt à dire aux femmes qu'est-ce qu'elles doivent faire. C'est elles qui doivent faire, ce sont les paysans qui doivent faire, c'est les ouvriers qui doivent faire. Nous pouvons porter l'art, nous pouvons porter notre métier, leur dire ça c'est un bon outil, utilisez cet outil-là, mais utilisez pour ce que vous voulez faire, et pas pour ce que nous croyons que c'est votre volonté. Non? À partir de ce moment-là, ça m'a changé beaucoup ma vision du monde. J'ai commencé à dire je ne ferai plus de théâtre pour inciter personne à rien. Je vais faire du théâtre pour aider les gens à comprendre qu'est-ce qu'elles veulent faire, pour répéter ce qu'elles veulent faire, mais pas leur dire faites ceci ou faites cela. Donc on a commencé à faire une autre forme de théâtre, ça s'appelait la dramaturgie simultanée. C'était comme ça, on prenait une pièce et on allait vers une crise. À la crise, on arrêtait la pièce. Et moi, j'entrais dans la scène, je disais, écoutez, nous savons que la scène, elle s'est déroulée comme ça et elle est arrivée à ce point critique. Maintenant, nous ne savons pas comment continuer. Donc, vous irez nous dire qu'est-ce que vous croyez qui doit être le comportement du protagoniste. Donc, c'était déjà mieux, parce qu'avant, on disait tout, on savait tout. Et maintenant, on le savait, mais on disait, c'est à vous de dire. Donc, les spectateurs disaient, je crois que le protagoniste doit faire ceci. Donc, ok, on va répéter, on va essayer ça. Donc, on improvisait la première solution. Et puis, j'ai demandé aux spectateurs, est-ce que vous êtes d'accord? Toujours, il y avait des désaccords. Des gens qui disaient, non, c'est pas ça. Ils disaient, qu'est-ce que vous croyez? Ah, je crois qu'au lieu de faire ceci, il doit faire cela. Donc, je disais aux acteurs, essayons ça. Donc, on essaye une deuxième fois, une troisième, une quatrième. Tout le monde qui avait une idée de comment la pièce devait se dérouler à partir de ce moment-là, pour arriver en bon fin, pourrait dire leur proposition. Mais c'était nous, les artistes, qui gardions le pouvoir de la scène, l'énorme pouvoir de la scène, l'origine de l'empathie, c'était nous qui disions, ça c'est notre métier, c'est nous qui savons faire. Vous nous donnez les idées, mais nous le ferons. Non? Un jour, vient une vieille dame, vient parler avec moi, et elle a dit qu'elle aimait beaucoup ce qu'on était en train de faire. C'était très démocratique parce que tout le monde pourrait parler, ce n'était pas autoritaire du tout, tout le monde pourrait dire ce que chacun voulait. Mais elle a dit, mais le dommage est que vous ne parlez que des thèmes politiques, vous ne parlez que de la dette extérieure, vous ne parlez que... C'était au Pérou que ça se passait, j'étais déjà été en prison, j'étais déjà banni du pays, j'étais déjà en Argentine et un peu partout. Et c'était au Pérou que ça se passait. Et elle a dit, c'est dommage que vous parlez de réforme agraire, vous parlez de dette extérieure, vous parlez de tout, et vous ne parlez pas des personnes, de l'individu. Et j'ai dit, madame, ce que nous faisons, c'est politique, comme vous dites, oui, c'est politique. Mais toutes les relations humaines sont politiques, parce que polis, c'est la ville, donc tout ce qui passe dans la ville, c'est politique. Elle a dit, non, mais mon oppression à moi, c'est pas politique du tout. Je dis, madame, je suis sûr que tous les problèmes qu'on a sont des problèmes politiques. Elle a dit, non, parce que vous ne connaissez pas mon problème, et mon problème n'est pas politique. Je dis, madame, elle est politique, dites-moi, qu'est-ce que c'est votre problème? Elle a dit, vous voyez, c'est moi et mon mari, vous voyez que c'est pas politique. Je dis, bon, mais ça, c'est le plus politique de tout. Qui vous a dit qu'un homme, là, est votre mari? Vous êtes dû aller à la mairie ou quelque part pour révéler que vous vouliez que cet homme, c'était votre mari. Et en même temps, d'autres personnes sont venues pour signer que vous connaissez et tout. Si vous voulez, si vous avez un problème avec lui, vous voulez vous séparer de lui, ce n'est pas une suggestion. Mais si vous voulez vous séparer de lui, il va falloir retourner à la mairie et dire maintenant on va se séparer. Il y aura quelqu'un qui va dire ouais. Donc c'est toute la ville qui comprend ça. Donc c'est politique. Votre mari, vous, c'est politique. Les bagarres que vous avez chez vous, c'est politique. Elle a dit, ah oui, il sait que se passe dans ma chambre, c'est politique. Là, c'est la meilleure politique de tout. Là, on connaît la vraie idéologie de chacun. C'est à ce moment-là. Donc, elle était ravie. Elle a dit, bon, si c'est vrai, ça, donc vous pouvez faire une pièce sur moi. J'ai dit, bien sûr que oui, parce que tous les jours, on faisait une pièce différente. Le matin, on lisait les journaux, l'après-midi, on faisait une répétition vite fait, et le soir, on jouait la nouvelle du jour. C'était toujours comme ça. Donc j'ai dit, ok, on va le faire, vous venez demain, vous nous racontez l'histoire, et vous venez demain le soir, et vous verrez le spectacle, et on va voir qu'est-ce que c'est votre problème, qu'est-ce que les spectateurs pensent qui peut être fait dans votre cas. Elle a dit, ah oui, je vais raconter. Donc elle a raconté une histoire terrifiante. C'était qu'elle avait un mari qui ne travaillait pas du tout, presque jamais. Il lui demandait de l'argent tout le temps. Tout le temps, il demandait de l'argent. Il disait, je vais construire une maison pour nous à Chaclacay. Chaclacay, c'était une ville un peu distante de Lima. Donc, je vais construire pour toi et pour nous deux. Donc, donne-moi de l'argent pour faire de la fenêtre. Donc, elle donnait de l'argent pour les fenêtres. Et puis, il disparaissait pendant deux semaines. Il retournait, disait, la maison, ça va bien. Maintenant, donne-moi d'argent pour acheter des ciments. Donne-moi d'argent pour acheter ceci. Donne-moi d'argent pour acheter... Et elle donnait toujours de l'argent. Il disparaissait pendant deux semaines, trois semaines. Quand il retournait, il venait avec des papiers écrits à main en disant que c'était les reçus. Il a dit, garde les reçus parce que ce sont des reçus de portes, les reçus de ceci, les reçus de cela. Et elle gardait toutes les reçus qu'elle croyait être les reçus. Et elle ne pouvait pas lire, elle était analphabète, elle ne pouvait pas lire ni écrire, donc elle gardait toujours les reçus, non? Sans savoir qu'est-ce qui était vraiment là. Non? Donc un jour, elles se sont bagarrées, et elle a demandé une amie à elle de lire les reçus. Elle a dit, je pense que les reçus peut-être ne sont pas vrais, peut-être il y a, parce qu'il n'y a pas de tampon, il n'y a pas de rien sur les reçus. Un reçu normal doit avoir quelque chose pour identifier qui a payé combien d'argent à qui. Donc elles ont discuté, elle a discuté avec ça, avec l'ami, et l'ami a dit, je vais lire. Elle a commencé à lire toutes les reçus. Il a découvert que les reçus n'étaient pas des reçus du tout, qui étaient des lettres d'amour qui lamentent de son mari, l'écrivait quand il était avec sa femme. Donc elle était toute seule, elle faisait des poèmes et tout, il les donnait au mari. Le mari rentrait et disait, garde-moi les reçus. Donc elle avait une montagne de reçus qui c'était l'air d'amour. Et elle était furieuse avec ça. Et tout le monde, quand on a entendu ça, on était furieux, nous aussi. On a dit, on va faire la pièce, l'après-midi, on va répéter la pièce, et le soir, vous venez le soir. Vous venez le soir qu'on va vous montrer la pièce. Donc elle a dit, est-ce que je peux venir pendant la répétition, voir la répétition? Et moi j'ai commis l'erreur de dire oui, venez. Donc elle est venue le lendemain, j'avais déjà commencé la répétition, faire la distribution des acteurs qui allaient jouer elle, qui allaient jouer le mari, tout, c'était tout bien avancé. Elle est assise et a commencé à regarder, et tout d'un coup elle a dit, écoute, mais qui est ce mec-là? Il dit, écoutez, c'est pas un mec là, c'est votre meilleur acteur, il va jouer votre mari. Et elle a dit, mais quoi? Celui-là, elle s'est mise à rire. Et vous croyez que je me marierai avec ce mec? Non, jamais. Je ne veux pas celui-là, je veux celui-là. Alors, on fait un autre. Je veux celui-là. Mais madame, moi, je le metteur en scène, c'est moi qui choisis. Elle a dit, ah, non, mais c'est mon mari à moi. Je veux celui, pas l'autre. J'ai dit, bon, je vais faire une exception parce que c'est votre mari à vous, donc d'accord. Elle a choisi quelqu'un, un jeune homme, maigre, petit, mais très bon acteur aussi. Donc, d'accord. Et puis, on a recommencé. Et cette femme-là, qui est cette femme? Cette femme, c'est vous, madame. C'est votre... Ah non, ça, là, je ne veux pas, je veux l'autre. Elle a commencé à me provoquer de cette façon. Et je pensais, bon, je vais lui dire de prendre ma place. Elle va voir que c'est difficile d'être un metteur en scène. Elle va renoncer à ça, elle va me laisser tranquille. Donc, je dis, madame, si vous n'aimez pas ce que je suis en train de faire, venez diriger la pièce vous-même, mettez en scène la pièce vous-même. Elle a dit, ah oui, oui, je vais. Je pensais que les acteurs la détesteraient parce qu'elle n'était pas une metteur en scène. Je pensais, bon, donc j'ai regardé, vas-y, allez-y, madame. Je connaissais bien les personnages. Elle a fait la direction des acteurs mieux que moi. L'acteur était ravi. Donc j'étais jaloux, j'étais furieux. Elle m'a pris ma place. Donc j'étais furieux avec elle, mais je l'ai laissée. Et pire encore, j'étais encore plus jaloux parce qu'elle l'a fait extrêmement bien faire. Et la scène était très bonne, très bonne. J'ai dit, bon, voilà, on fait ça. Mais j'ai dit, mais ce soir, c'est moi le joker. La contact avec l'expérience, c'est moi, c'est pas vous. Vous allez faire la mise en scène très bien, mais c'est moi. Donc, le soir, Le théâtre est très plein. Elle était là à côté. Je l'appelais. Vous êtes là, asseyez-vous ici. J'ai demandé aux spectateurs, je leur ai dit, écoutez, cette femme-là, on en parle toujours, on parle de réforme agraire, on parle de la politique et tout cela. Aujourd'hui, on va parler de cette femme qui est ici à côté de moi. Donc, vous pensez bien à vos suggestions, parce que votre suggestion va changer sa vie. Donc, c'est très important que vous pensez bien. Donc, tout le monde était ravi, parce que c'était quelque chose de concret, n'est pas l'abstraction. Des fois, on parle de réforme agraire et on ne connaît même pas l'intérieur du pays. On parle de la libération, je ne sais pas quoi, et on ne connaît pas vraiment. Dans ce cas-là, il y avait une femme qui regardait, qu'est-ce que je dois faire? Parce que le problème, c'était que la pièce, elle était construite jusqu'à la crise. C'était comme le mari revient après qu'elle a découvert que les reçus n'étaient pas de reçus du tout. Donc, la pièce est terminée là, non, comme dans la dramaturgie simultanée. Donc, j'ai dit, on va commencer. Donc, la pièce a commencé. Les maris qui demandaient de l'argent, qui revenaient avec le reçu, ils se sont bagarrés. La femme d'à côté qui est venue, la copine qui est venue pour lire les reçus, les faux reçus, qui étaient lettres d'amour. Et quand elle est en train de lire les lettres d'amour, les maris, l'acteur, frappe à la porte. À ce moment-là, j'arrête. Il dit, écoutez, vous êtes en train de voir une scène qui va se passer demain, parce que le mari va retourner demain. Donc, cette scène ici, cette actrice est à la place de madame qui est ici à côté. Elle va être dans sa vraie salle à manger, et le vrai mari va être là en frappant la porte. Qu'est-ce qu'elle doit faire demain? Donc, donner des idées. Donc, tout le monde était un peu ravi de donner des idées. Des fois, je demande aux gens qui parlent les uns avec les autres avant pour faire des idées collectives, non? Donc, j'ai dit, bon, on commence. Donc, un groupe a dit, ah bon, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit pleurer. Elle doit pleurer beaucoup, mais pleurer énormément, pleurer tout ce qu'elle peut pleurer, et après ça, elle doit le pardonner. Donc j'ai dit à la comédienne, j'ai dit, tu vas pleurer tout ce que tu peux, et après tu lui pardonnes. Donc l'actrice, la comédienne a dit, ah bon, je sais pleurer, pas de problème, je pleure bien. Donc elle a commencé à pleurer, elle a dit, toi tu es en traite, toi tu m'as fait ceci, toi tu m'as fait cela, et je ne peux pas supporter plus. Il pleurait, il pleurait, il pleurait. Et le mari a dit, non, mais ça c'est un amour que j'ai eu il y a très longtemps, je ne la connais plus. Maintenant je suis en train de faire ta une maison pour nous, je ne sais pas quoi. Et à la limite, à la fin, elle disait, bon, je te pardonne. Donc elle a dit, bon, tu me pardonnes, je suis fatigué, tu vas à la cuisine et tu prends mon repas parce que j'ai faim, je voudrais manger. Donc la comédienne allait à la cuisine chercher les repas pour lui. Donc j'ai demandé au spectateur, est-ce que vous êtes d'accord, c'est bien ça qu'elle doit faire demain? Et toutes les femmes qui sont là, non, c'est ok. Donc c'est pas, ne dites pas non, dites qu'est-ce que vous croyez qu'elle doit faire. Donc quelqu'un a dit, ce qu'elle doit faire, c'est de les laisser dehors. Elle ferme la porte et ne laisse pas entrer. Elle va habiter seule pendant un certain temps. Il va voir comment c'est important d'avoir une femme, avoir une maison et tout. Donc, j'ai dit à la comédienne, fais ça. Donc, elle a fait ça, elle a fait ça. Et l'acteur qui jouait les maris a dit, bon, c'est bien, si tu ne me laisses pas entrer, je rentre chez mon amante, je vais vivre chez elle, et toi, tu vas rester toute seule ici, à Lima, et au Pérou, quand une femme, même si elle était mariée, c'est elle qui a voulu se séparer de mari, c'est un peu dangereux, parce que tous les hommes pensent qu'ils peuvent coucher avec elle aussi, donc c'est pas une bonne idée, mais c'est ça que tu veux, je m'en vais. Donc j'ai demandé au spectateur, est-ce que c'est vrai ça? Et est-ce que c'est une bonne solution? Non, ce n'est pas une bonne solution. Donc j'ai dit, qu'est-ce que c'est la bonne solution qu'elle doit faire? Donc quelqu'un d'autre a dit qu'elle devait laisser lui entrer et elle partir chez sa mère. Il laissait la maison pour lui un certain temps pour voir comment une femme est importante dans la maison. Donc je disais ça, les comédiens ont improvisé, la même chose se passait. Que le mari a dit, ah bon, si tu vas t'en aller, je ne veux pas habiter toute seule, donc je vais amener ma copine, ma amante à venir ici habiter chez moi. Je l'aime plus que je t'aime à toi, mais j'aime ta maison plus que j'aime sa maison à elle. Donc ça m'arrange bien. Donc j'ai commencé à être désespéré un peu parce que je pensais, j'avais promis une bonne solution. Et les solutions n'arrivaient pas. Donc, à un moment donné, je regarde tout le monde pour voir qui a les visages, qui a une bonne idée. Donc, j'ai regardé. Et dans les quatrièmes rangées, plus ou moins, il y avait une femme, j'ai repéré une femme énorme. Elle était, n'est pas qu'elle était grosse seulement, elle était forte. Comme les joueurs de judo.
Non, pas de
sumo. Sumo. Des sumo japonais qui sont énormes, des gros, des grands, des forts, et que je ne peux pas même faire ça parce que les jambes, c'est énorme. Donc elle était comme ça, elle était furieuse, elle me regardait dans la tête, et j'ai senti que c'était quelque chose de dangereux. Et elle faisait une chose comme ça, je n'ai jamais appris ça. Elle faisait comme ça, et les muscles voyageaient dans le corps. J'essaie de faire la même chose, mais mes muscles ne voyagent jamais. Les mêmes mouvements qu'elle, mais les miens restent sur place. Je ne sais pas comment elle le faisait. Donc j'ai eu peur d'elle. J'ai pensé que ce n'est même pas le spectacle. Elle va payer, c'est moi. Donc je me suis approché d'elle et dit, madame, je crois, en vous regardant, on dirait même que vous avez une idée. Si vous avez une idée, dites-le, on va démocratiquement laisser votre idée. Yeah, j'ai une idée, une bonne idée. C'est bien, on va doucement. Quelle est votre idée? Elle a dit, dans mon idée, c'est ça. Elle doit laisser qu'il entre. Elle doit avoir une conversation très claire avec lui. Et après qu'il aura une conversation très claire, il doit le pardonner. Donc j'ai pensé, elle faisait tellement de choses, et finalement l'idée n'était pas tellement terrible. J'ai dit, ok, j'ai dit à la comédienne, tu vas avoir une conversation très claire avec lui, et après tu lui pardonnes. Elle a dit, ok, et elle a commencé, elle a dit, écoute, c'est clair que tu as une amante, c'est clair que je ne peux pas supporter ça, donc clairement, ça n'est pas possible de continuer comme ça, et clairement, c'est ci, clairement, c'est là. Et la femme disait, bon, c'est clair qu'il va te pardonner. Donc les maris, l'acteur qui jouait les maris, a dit, bon, si c'est clair que tu me pardonnes, c'est clair aussi que je viens de marcher beaucoup, je suis fatigué. Donc c'est clairement, tu vas à la cuisine, mon dîner. Donc elle est allée. Quand je pensais, bon, ça ne peut pas marcher non plus, j'ai regardé quelqu'un d'autre, je regarde la femme, il est encore plus furieux. Elle ressemblait en japonais, de sumo, mais elle ressemblait en dragon chinois, parce que ce qui sortait de fumée, sa bouche, il fait comme ça, c'était terrible. Donc j'ai dit, madame, on a essayé ce que vous voulez, mais ça n'a pas marché, je ne suis pas coupable, ça ne marche pas. Elle dit, non, toi tu es un homme, et les hommes ne comprendront jamais les femmes. Je dis, oui, madame, peut-être vous avez raison. Mais les femmes ne sont pas faites pour être comprises. On les aime, on ne les aime pas. Comprendre, c'est pas possible. Et elle a dit, non, mais parce que tu es un homme. Je dis, mais la comédienne, elle est une femme, la comédienne. Et elle ne vous a compris non plus. Qu'est-ce que vous avez dit? Donc elle a insisté, elle a dit, écoute, ce que j'ai dit, c'était clairement qu'elle doit avoir une conversation très claire. Et j'ai dit, madame, ce que moi j'ai compris, c'est qu'elle devait avoir une conversation très claire. Et après, elle doit le pardonner. Elle dit, non, je ne dis pas ça. J'ai dit qu'elle doit avoir une conversation très claire. Et madame, j'ai compris que c'était très clair. Je dis que c'était pas ça. C'était très clair, je ne comprends pas. Ok, on va faire à nouveau, on va jouer à nouveau. Donc j'ai à dire à la comédienne, j'ai dit, écoute, tu vas avoir la conversation la plus claire de ta vie. Seulement après ça, tu le pardonnes. Donc elle a commencé à dire, c'était comme une mitraillette de clair. C'est clair ceci, c'est clair cela, c'est clair cela. Et après parler clair, elle était exsangue déjà, de tant clair qu'elle avait parlé. Bon, c'est clair que je suis fatigué, c'est clair que je te pardonne, et lui, ok, c'est clair que tu vas à la cuisine. Donc la femme s'est levée. Quand la femme s'est levée, j'ai eu peur. Je me suis levé moi aussi, j'ai commencé à essayer d'échapper. Mais quand je suis dehors, je regarde et je vois qu'elle part. au lieu de venir contre moi comme j'avais peur, elle était en train de partir. Donc j'ai dit, madame, fais pas ça. On essaye, on est sincère, on essaye de vous satisfaire, de faire votre idée, mais ça n'a pas marché. Et elle a commencé à m'agresser encore plus. J'étais énervé moi-même. J'ai dit, madame, vous voulez savoir quelque chose? Je pense que clair, c'est une chose. Pour vous, clair, c'est une autre chose. Pourquoi vous n'entrez pas vous-même ici, montez sur scène et montez quel diable des conversations claires vous voulez? Donc elle était déjà assise quand j'ai dit montez sur scène. Elle s'est levée et dit, est-ce que je peux? Oui, vous pouvez, montez sur scène. Donc elle est venue. Mais comme elle était énorme, elle venait la moitié et puis l'autre moitié. Elle ne venait pas comme ça. Il a clair que je vais les maris. Était un très bon joueur, très fin joueur, acteur, très fin acteur. Mais il était très maigre, très petit. Quand il a vu que cette femme qui venait comme ça, il a eu peur. Il a regardé, il a dit, Augusto, qu'est-ce que j'ai fait? Et moi, j'ai dit, moi, je ne sais pas. Je ne suis pas un acteur. Moi, tu improvises. Ah oui, il faut improviser. Vous improvisez quoi? Ah, Stanislavski. Oui. Donc la femme est venue. La femme est passée par lui. Il avait un balai au fond. Elle a pris le balai comme ça. Elle a retourné. Elle a pris le mari par là. Il a commencé à dire, on va avoir une conversation très claire. À me frapper, je suis sauté sur la femme m'a fait ça. Le décor était un peu faible. Moi, avec les autres acteurs, j'ai essayé d'aider. Et écoute, j'ai fait des théâtres il y a une cinquantaine d'années, demi-siècle, je vous jure que je n'ai jamais vu un acteur si sincère comme celui que je disais. Pardonnez-moi. Je ne peux pas te trahir, jamais. Quand tu disais ça, il était d'une sincérité. Quand Laurence Olivier ou quand Jean-Louis Barrault, elle serait capable de telle sincérité sur ça. Il y a bien qu'elle a frappé beaucoup, elle l'a mis assis sur la table, elle s'est mise comme ça sur la table et elle dit, écoute, et maintenant que nous avons eu cette conversation très claire, toi, tu vas à la cuisine. Quand elle a dit ça, quand elle a entré, j'ai vu qu'il y avait deux côtés qu'on pourrait percevoir l'événement. Un côté, c'était le côté anecdotique, disons. C'était joli de voir ça. Pas pour les maris, évidemment. Les autres, qui pourraient garder un certain détachement. C'était formidable de voir ça, les spectateurs qui envahissaient la scène. Mais il y avait un côté symbolique. Parce que la scène, elle est sacrée, comme l'autel, il est sacré, comme le podium, il est sacré. Il n'est que fait que pour certaines personnes, certains spécialistes. Et quand un spectateur, n'importe quel spectateur, avait envahi la scène, il montrait, pas à travers de l'artiste, mais artistiquement, montrer qu'est-ce qu'elle pensait qu'il devait être fait, on a compris la différence immense qui existait entre celui qui disait quelque chose et nous qui traduisions avec la bonne volonté du monde, on traduisait ça. Donc on a dit, on va, dorénavant, on va faire ça. On ne va plus faire des dramaturgies simultanées, on va faire des théâtres forums. On va jouer la scène et on va dire aux spectateurs, si vous croyez que ça, c'est pas bien, ne parlez pas, venez sur scène, parlez sur scène, utilisez le pouvoir de la scène au même titre que les comédiens, au même titre que les acteurs, parce que tout le monde est acteur, tout le monde est capable de faire n'importe quoi qu'une personne est capable de le faire. Tout le monde peut le faire, pas de la même façon, mais tout le monde peut le faire. Et ça, c'est une idée que j'ai et que on voit. C'est la vérité, ce n'est pas un slogan politique, c'est la vérité. Tout le monde est capable. Je vous raconte une histoire très belle, d'une histoire d'une personne que j'ai travaillé à Hebden Bridge, en Angleterre, qui c'est quelqu'un qui C'était quelqu'un qui... je travaillais avec des gens handicapés, non? Il avait des handicapés de tous les types mentaux, physiques et tout. Il avait quelqu'un qui avait multiple sclérose. Il ne pouvait plus parler. Il n'avait pas le contrôle des mains ni rien. Et quand il voulait parler, il avait un Dynavox, un computer, un ordinateur, avec des dessins. Il parlait avec l'ordinateur et avec une infirmière qui était avec lui, qui le comprenait bien, qui traduisait. Non, et pendant toutes les 5 journées de travail, il était toujours là, très intéressant, il participait beaucoup, mais avec les mains comme ça, des contrôles et tout. Et à la fin, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu vas faire à partir de demain, quand ça sera fini, les stages, qu'est-ce que tu vas faire? Et tout, pour ma surprise, il a dit, je vais retourner au travail. Donc j'ai pensé, mais comment peut travailler un homme qui n'est pas même capable de sortir toute seule de sa chaise roulante, qui ne peut pas contrôler ses mains? Donc j'étais un peu étonné. Il a vu mon étonnement dans mon visage, il a rigolé un peu, il a dit, oui, je travaille. Et j'ai demandé, mais écoute, pardonne-moi, mais tu travailles à quoi? Il a dit, je suis professeur. Il a dit à travers de Dynavox et à travers de l'infirmière, je suis professeur. Mon étonnement, c'était encore plus grand. Comment il peut apprendre aux autres, enseigner, si lui-même n'a pas les moyens de l'enseigner? Donc j'ai dit, mais toi, tu es prof de quoi? Il a dit, je suis prof de danse. Non, ça, c'est à la limite. Prof de danse. J'ai dit, mais comment tu peux enseigner la danse? Il a dit, non, la danse, c'est ça. Je raconte l'histoire d'un rythme. Par exemple, le tango. Qu'est-ce que c'est le tango? Donc, je raconte l'histoire, comment le tango s'est développé. Ou je raconte les sambas, tous les rythmes. Je raconte l'histoire et tous les gens entendent moi raconter. Et tous sont des gens qui ont les mêmes problèmes que moi. Ils sont aussi dans chaises roulantes, ils sont aussi avec des problèmes mentaux ou problèmes physiques, mais ils comprennent qu'est-ce que c'est. Et après, je mets les CD de la musique que je viens de raconter. Et tout le monde danse. Et je dis, mais comment on peut danser si on est sur une chaise roulante? Donc il a dit, ça dépend de qu'est-ce qu'il appelle la danse. Et la danse, à la base, la danse, c'est le mariage entre le corps et la musique. Le corps et les rythmes. Donc, si toi, tu es un Diaghilev, si toi, tu es un Nureyev, si toi, tu es un Barachinov, je ne sais pas quoi, tu danses en te jetant en l'air, en faisant des pirouettes, en faisant tout cela, parce que ton corps permet ça. Mais si tu n'es pas un danseur comme ça, tu danses avec tes thorax, ou si tu ne peux pas, tu danses avec ta tête, si tu ne peux pas, tu danses avec tes yeux. Si tu ne peux pas, tu danses avec ta pensée. Mais c'est important que tout le monde puisse danser, chacun de sa façon. Mais pas que tout le monde va danser de la même façon, il n'y a pas une compétition, mais que tout le monde est capable de danser, n'a pas aucun doute. Mais évidemment, certains peuvent danser seulement avec les yeux, seulement avec un rythme comme ça. Chacun danse de la façon qu'il veut. Et la même chose pour toutes les autres choses, pour nager, pour être peintre. Donc tout le monde est un artiste. Et ça, ce n'est pas de le slogan politique, ça, ce n'est pas de la démagogie, c'est la vérité. C'est seulement les êtres humains, et tous les êtres humains, qui sont capables de la métaphore artistique. C'est-à-dire, sont capables de regarder quelque chose dehors et faire un dessin, et faire, ou regarder quelque personne et faire une peinture, ou faire une sculpture. Ce sont les êtres humains qui sont capables. On n'a jamais vu un éléphant qui fait une sculpture, un chat qui fait une peinture, ce n'est pas possible. Ou un bœuf qui fait un poème, ça n'existe pas. Mais nous, les êtres humains, nous pouvons le faire. Et nous sommes maintenant à Rio, nous sommes dans un nouveau projet qui s'appelle l'esthétique de l'opprimé. Tout le monde doit écrire des poèmes, tout le monde doit faire des narratives, tout le monde doit peindre. Ils sont tous, nos groupes de malades mentaux, nos groupes de communautés pauvres, nos groupes de domestiques, des femmes qui sont des domestiques, tous sont en train d'écrire des poèmes, de faire d'art. Je me souviens, et avec ça je passe au théâtre législatif, au théâtre forum, qui c'est lui qui va faire les otages. je me souviens que quand je suis parlé aux gens pour la première fois, je veux que tous écrivent un poème. Une femme qui est une employée domestique a dit, mais nous ne pouvons pas écrire un poème. J'ai dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas écrire un poème? Elle a dit, parce que nous ne sommes pas des poètes. J'ai dit, écoute, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. C'est pas comme ça. Il ne faut pas penser, je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas un poète. Tu dois penser le contraire. Tu dis, si j'ai fait un poème, je deviens un poète. C'est l'acte de transformer la réalité qui nous transforme à nous. Si je suis capable de, avec la terre, faire une statue, donc je suis l'acte de transformer la terre en statue, me transforme à moi, en sculpteur. Si je suis capable de faire, de chanter quelque chose, l'acte de transformer le son dans une chanson, me transforme en compositeur. C'est en faisant que nous nous faisons. C'est l'acte de faire qui nous fait. Nous sommes ceux que nous sommes capables de faire. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme pour marcher, et pour vont tous marcher. Il n'est pas nécessaire d'avoir un diplôme pour pouvoir parler, et nous parlons tous. Il n'est pas avoir le diplôme d'orateur. Seulement les orateurs peuvent parler, parce qu'ils ont fait un cours d'oratoire. Non, tout le monde peut parler. Évidemment, les uns parlent d'une façon, les autres parlent d'une autre façon. Mais c'est cette capacité qu'il faut développer en tout le monde. Ce que j'ai dit, c'est la dynamisation du spectateur, qui c'est exactement le contraire. Quelqu'un m'a dit, qu'est-ce que c'est dynamiser le spectateur? J'ai dit, c'est exactement le contraire de regarder la télé. Regarder la télé, c'est la pacification totale, c'est annihiler le spectateur. Ce sont des images qui nous viennent impératives, des images, fais ceci, fais cela. Nous voulons des images subjonctives. Ici n'était pas comme ça, c'était d'une autre façon. C'est ça qu'on veut. Donc, on est en train de faire ça. Il était législatif, qu'est-ce que c'est? C'est une expérience qu'on a fait au Brésil. Moi, j'étais élu législateur de Rio, moi et 41 autres personnes en plus. Donc, nous deux, nous 42, nous, pendant 4 ans, on était les législateurs. Comment j'ai fait mes lois? Jamais de ma tête, je faisais des théâtres forum dans la rue, dans les églises, dans les syndicats, et de partout on faisait des théâtres forum. Et puis on voyait, mais qu'est-ce qu'ils veulent? En entrant sur la scène, en remplaçant les protagonistes, en essayant de nouvelles solutions, qu'est-ce qu'ils veulent? Donc on essaie de rédiger des textes qui étaient des textes de loi, des projets de loi. Et avec ces textes de projets de loi, on a passé dans la chambre normalement comme un projet de loi. Donc ce qu'on va faire ici aujourd'hui, c'est immédiatement, on va faire deux jeux. Non, Julien, c'est toi qui vas... C'est moi? C'était toi. Julien et moi, on travaille ensemble, il est mon fils, donc il... Je l'aide beaucoup. Mais aujourd'hui, il est comme traducteur de Sanjoy, qu'il a un an de Sanjoy. Il a développé un mouvement de théâtre forum qui maintenant, qu'il y a une quinzaine d'années, c'était qu'une dizaine de personnes. Aujourd'hui, ils sont plus de 1000 personnes divisées en 50 groupes de théâtre forum un peu partout dans l'Inde, et pas seulement à Calcutta, où il habite, où il a commencé le travail.
Comment? Des paysans et des paysannes.
1000 acteurs qui sont tous des paysans et des paysannes. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais vous proposer deux exercices que vous verrez qui sont exercices extrêmement faciles à faire. Et vous pouvez le premier, vous pouvez le faire là où vous êtes, sans vous lever même. Non, c'est très facile. Le deuxième, il faut se lever, mais c'est facile aussi. Après, les groupes, mais lui, il va expliquer l'origine du groupe, va présenter un problème, qui c'est un problème sérieux par ici, qui c'est le problème du logement. Non? Donc, on va faire un forum sur le logement, et après, on va faire une séance, une petite séance des théâtres des législations, et on va voter. J'espère que vous aurez la disponibilité d'écrire des projets de loi pour essayer de résoudre les problèmes qu'ils vont présenter et qui n'est pas un problème inventé de leur tête. C'est un problème réel d'ici de la région. Ils n'amènent pas un problème d'eux seulement, c'est le problème de la région. Donc c'est ça qu'on va le faire. Okay? C'est clair jusqu'ici. C'est très clair. Tant mieux, tant mieux.
Où est le ballet, où est le ballet. Okay.
Donc, avant de commencer le théâtre forum, je vous propose, parce que c'est toujours bon qu'après que je parle aux n'importe qui parle, les gens sont assis. Donc, mais maintenant, là où vous êtes, vous pouvez être assis, vous pouvez être assis. On va faire un exercice, qui c'est un exercice emblématique de théâtre premier, c'est le plus vieux de théâtre premier, c'est le plus facile. J'ai fait partout dans le monde et toujours, tout le monde peut le faire. Donc, s'il vous plaît, faites tous extrêmement bien, parce que sinon, la prochaine fois que je commence à faire une chose comme ça, je vais dire, ah oui, mais un jour, j'étais dans le pays de Fourcaki, là, il y avait une personne qui n'a pas réussi. C'est la seule exception dans le monde. Donc, je ne veux pas que vous soyez la seule exception dans le monde. Mais l'exercice, il y a trois parties. La première, c'est la plus difficile de toutes. C'est vraiment difficile, c'est comme ça. Avec votre main droite, faites un cercle. Vous voyez? Ça, c'est la plus difficile. Ça, la plus difficile. Tout le monde est en train de faire. Tous, oui. Pas trop grand, parce qu'il y a des camarades à côté qu'il ne faut pas toucher le visage. Mais vous voyez, ça, sont parmi les plus beaux cercles que j'ai jamais vus. Pays de Fourcalquier. C'est ça. Donc, maintenant, la deuxième partie, c'est encore plus facile. Avec la main gauche, vous faites une croix dans l'air, comme ça. Vous voyez, c'est très facile, extrêmement facile. Ceux qui ne sont pas tellement religieux, pensez au signal des plus. Vous voyez, c'est très, très facile. Maintenant, faites les deux choses, c'est la plus facile de tout maintenant. Faire deux choses en même temps.
Ah, ouais.
Vous voyez comme c'est facile. Allez-y, allez-y. Allez, il arrive. Il arrive bien. Il arrive bien. Qui est en train de faire? Qui arrive à faire?
La deuxième partie
est
plus difficile.
Moi j'y arrive, mais je fais une croix circulaire.
Waouh! Croix circulaire.
Des heures et des heures.
Elle a inventé quelque chose, c'est bien la créativité. Elle a inventé une croix circulaire.
C'est très bien. Ça, c'est les essuie-glaces d'Ariane.
Il y a un complément, c'est beaucoup plus curieux.
Les essuie-glaces d'Ariane.
C'est avec le pied droit. Avec le pied droit ou avec les pieds. Si vous êtes gaucher. Donc, si vous êtes gaucher, pas nécessairement gauchiste. Si vous êtes gaucher, faites avec la jambe gauche. Mais si vous êtes
droitier,
pas de droite, mais droitier, faites avec la jambe droite, avec la jambe du côté que vous écrivez, n'est-ce pas? Donc faites un cercle avec les jambes. Faites un cercle. Mais vous irez voir quelque chose de fantastique va se passer. Vous irez donner un ordre à votre corps et votre corps va faire les contraintes de ce que vous dites. Ça, c'est formidable, non? C'est-à-dire, continuez à faire des cercles, faites le cercle, faites le cercle. Mais faites vraiment un cercle et sans arrêter de faire le cercle, avec les mains que vous êtes, si vous voulez, mais faites le cercle, sans arrêter le cercle, sur l'espace, écrivez votre nom, prénom, votre prénom.
Sans arrêter le cercle?
Voilà, sans arrêter le cercle.
C'est le piège. Avec la main? Avec la main?
Avec la main, votre prénom.
Mais pas du pied. Mais une calligraphe là. Hein.
Moi j'ai écrit sur ta page.
C'est facile avec la main.
Ok.
Ça pose pas de problème.
La seule fois que j'ai fait ça, ça marchait immédiatement. C'était au Danemark il y a beaucoup de temps. Il y a quelqu'un qui était ravi, il a dit, moi j'arrive, je le fais. Et j'ai dit, mais comment t'appelles-toi? Il a dit, Hall. On va faire un autre, mais j'ai besoin de deux personnes qui viennent ici. Il peut être de stage, des gens de stage aussi, parce que vous avez déjà fait dans les stages. Mikey, c'est les Bradford, un des trois de Bradford. C'est comme ça. Je vais vous demander à tous de faire des couples. Donc une personne va dire 1,
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2.
Ok, maintenant, on va éliminer les mots 1. Il y a sa place. Toi, tu fais quelque chose de rythmique avec ton corps et avec ta voix, n'importe quoi. Mais rythmique, pas seulement boing, boing, tarakitum, boum, tcha tcha.
Un geste,
mais complet. Ça, c'est le numéro 1.
2, 3, 2, 3, 2, 3.
Maintenant, au lieu du nombre 2, du numéro 2, tu vas faire quelque chose bien différent de ça, mais aussi en rythme, le corps et la voix. Chose complètement différente. Vas-y. Fasse en même temps, ok? Levez-vous, levez-vous.